Qu'il me soit permis, chers frères et sœurs, de vous souhaiter le meilleur pour nous tous, pour cette nouvelle année. Et j'ai demandé à Henri qu'il laisse le refrain. Elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Vous l'avez tous chanté ? Donc, c'est une promesse que nous avons faite au Seigneur, que sa parole, bien sûr, elle est la vérité, on y croit. Et par elle, je veux me laisser guider toute l'année, hein, c'est ce que nous avons dit. Et alors, et faire ta volonté sans murmurer. Ça, sans murmurer, les Liégeois, c'est difficile, parce qu'on a les jouets près de l'tiesse, comme on dit, on a les cheveux près du bonnet. En espérant d'entendre bonté. Voilà. Comme je le dis souvent, quand on chante un cantique, si on n'est pas d'accord ou si on n'est pas sûr de le faire, vaut mieux se taire. Et parfois, alors, il n'y aurait plus personne qui chanterait. Parce que c'est parfois toujours, c'est difficile. Mais c'est vrai, cette parole que nous partageons tous les dimanches, eh bien, elle doit nous guider. Elle doit être notre guide. Et bien entendu, il y a des versets dans lesquels nous avons difficile nous avons difficile avec certains versets, nous avons difficile à obéir. Mais bon, ben voilà, nous l'avons chanté, c'est le vœu de l'Assemblée de Blégny pour cette année 2023. Merci Henri de l'avoir laissé afficher. Il est bon de se poser quelques questions en ce début d'année, comme de savoir où nous nous situons sur l'échiquier spirituel. Et vous le savez que dans toutes les sociétés, en fin d'année, on fait un bilan. Le bilan de la société, a-t-il été bon, a-t-il été mauvais? Et notre bilan spirituel, je ne sais pas comment il est. Je ne vous connais pas assez profondément. Il y a Dieu qui nous connaît vraiment pour nous dire où nous nous situons. Quel est le bilan de notre année 2022? Comment avons-nous été avec notre Dieu? Et pour cette 2023, comme dans toutes les sociétés, il y a des objectifs à atteindre. Quels sont nos objectifs que nous voulons atteindre en 2023 au niveau personnel, au niveau familial et au niveau de la communauté? Quels sont nos objectifs? Et le titre que j'ai donné à cette méditation est « Quel est notre état spirituel en 2023 ?» Il ne faut pas se cacher la tête dans le sable, frères et sœurs, mais ouvrons nos yeux spirituels et revenons auprès du Seigneur. Si nous considérons notre état spirituel, parfois nous pouvons dire notre état spirituel est plutôt boiteux. Les lectures que je vous propose ce matin, ce ne sont pas des jugements pour qui que ce soit, parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai écrite, donc de ce côté-là... Je suis innocent. Donc, c'est la parole de Dieu et nous devons l'appliquer. Et c'est pour cela que je vous propose ce matin de lire dans l'Apocalypse au chapitre 3. Chapitre 3, des textes que nous connaissons fort bien, mais je pense qu'il est bon, ce début d'année, de nous y arrêter afin de les comprendre, de les recomprendre, de les reméditer, de les reconsidérer. Afin de nous replacer devant le Seigneur pour cette année 2023. Chapitre 3, verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Je lis dans la version Nouveau Français Courant. Voici ce que déclare celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ton activité, je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi ce que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois-lui fidèle et change de vie. Si tu n'es pas vigilant, je viendrai te surprendre comme un voleur, sans que tu saches quelle heure ce sera. Cependant, quelques-uns des tiens à Sardes même n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges qu'il est à moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Et je pense que nous avons tous des oreilles ce matin pour entendre. Notre Dieu nous connaît mieux que personne, frères et sœurs. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes, parce que bien souvent nous cachons certaines choses, nous voilons la face. Nous ne pouvons rien cacher à notre Dieu. Il nous dit qu'il connaît notre activité, ou dans d'autres versions, il dit qu'il connaît nos œuvres. Nous n'avons pas besoin de faire devant lui l'étalage de nos actions bonnes ou mauvaises, car Dieu les connaît. Mais ce matin, parlons plutôt de nos bonnes œuvres, de nos bonnes activités. Soyons quand même positifs. Parlons de ce que nous accomplissons de bon tout au long de l'année. Nous avons tous, je pense, du moins, une vie de méditation, de la parole, une vie de prière que nous accomplissons parfois, mais nous accomplissons cela parfois comme un devoir, notre devoir de bon chrétien, parce que chez les protestants, il est de bonne loi de lire sa Bible et de prier, parce que les protestants sont les meilleurs, hein ? On a toujours dit ça, spécialement les protestants évangéliques. Nous faisons ça comme une relation, comme un devoir, au lieu que ce soit plutôt une relation d'amour avec notre Dieu. Voilà, je suis tranquille. J'ai lu ma Bible, aujourd'hui je suis tranquille. Maintenant je peux vaquer à mes occupations. J'ai prié et je suis tranquille pour toute la journée. Dieu doit être content de moi. Je parle quand même de lui à mon entourage, je témoigne. Je vais à l'église, je donne ma dîme, etc. Je fais plein de choses, j'accomplis mes devoirs de bon chrétien et je fais encore d'autres choses que je considère comme des œuvres normales en tant que chrétien. Et nous croyons ainsi faire plaisir à Dieu parce que nous accomplissons toutes ces choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, hein. Mais dans quel contexte, avec quel cœur les faisons-nous ? Et pourtant, Dieu peut s'adresser à nous en nous disant « Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. « Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. » Voilà comment Dieu s'adresse à l'église de Sardes, où je crois qu'il y avait des bons chrétiens qui venaient au culte tous les dimanches, et à d'autres activités de l'Église. Et pourtant, Dieu donne ce jugement-là à cette Église. Et ici, frères et sœurs, je ne porte aucun jugement sur personne d'entre nous. C'est à nous ce matin de faire le point sur notre état spirituel. Ce n'est pas le rôle du prédicateur de porter un jugement sur son auditoire, comme malheureusement beaucoup de prédicateurs font dans certaines églises, qu'ils pointent du doigt ou qu'ils prêchent pour un tel. Mais moi, j'ai déjà été retrouvé le pasteur par après. Ah oui, parce que ça ne se fait pas. Voilà, on ne doit pas porter de jugement en tant que prédicateur. Dieu nous met en garde, nous les prédicateurs, de ne pas porter des jugements sur nos frères et sœurs. Car qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Laissons-nous plutôt interpeller par Dieu et ne fermons pas nos cœurs et nos oreilles à sa voix. Ce matin, c'est plutôt Dieu qui nous donne cet avertissement. Car Dieu est un Dieu aimant, frères et sœurs, et plein de compassion pour ses enfants. Il ne veut pas notre destruction. Comme certains, on est heureux de voir les gens dans le malheur, même dans les chrétiens. Parfois, ah ben s'il est comme ça, c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à être plus fidèle. Il n'avait qu'à. Non, Dieu ne veut pas notre destruction, il veut plutôt notre reconstruction spirituelle. Et surtout en ce début d'année. C'est pour ça qu'il nous avertit. Écoutons la suite de son propos envers son Église qu'il aime par-dessus tout. « Réveille-toi, dit-il à l'Église, réveille-toi. » Il ne dit pas « Reste dans l'état où tu es », non, « Réveille-toi. » Et bien souvent, nous, on voit quelqu'un qui dort, S'il y a quelqu'un qui s'endort dans le bus, on le laisse dormir. Et mon beau-fils qui est chauffeur de bus, des fois, il dit, il y a une personne qui s'endort, il fait 3-4 tours avec le bus et ne se rend pas compte qu'il dort. Mais il dit, moi, je ne le réveille pas, ce n'est pas notre rôle. Mais on est comme ça, parfois. On ne veut pas secouer la personne qui dorme, tant pis pour lui. Ranime ce qui reste de vie et qui allait mourir. Voilà ce que nous dit Dieu. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite aux yeux de mon Dieu. Frères et sœurs, Dieu voit notre endormissement. Il nous appelle à nous réveiller de notre sommeil spirituel, pouvant être provoqués par les choses de la vie que nous trouvons plus importantes que notre relation avec notre Dieu. Oui, comme je l'ai dit, nous avons des activités spirituelles que nous considérons comme des bonnes actions pour notre Dieu. Mais en dehors de cela, nous pouvons donner plus d'importance à ce qui peut paraître pour notre Dieu comme futile ou inutile. L'apôtre Paul dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile dans notre vie. Regardons si ce que nous nous permettons est vraiment utile à notre développement, notre épanouissement spirituel. Le texte a une note positive. Ranime ce qui te reste de vie. Oui, Dieu voit encore dans certaines personnes, dans certains chrétiens, qu'il reste un petit lumignon qui fume, un petit reste de vie. Et Dieu ne met pas son pied sur nous pour nous enfoncer, pour nous noyer. Non, il dit ranime ce qui te reste de vie. Tu n'es pas encore mort spirituellement. Voilà encore où se manifeste l'amour de Dieu, frères et sœurs. Il nous avertit à temps. Tu peux mourir si tu n'y prends pas garde, mourir spirituellement, mais je t'avertis avant qu'il ne soit trop tard pour toi, pour moi. Car au fond, des actions que tu crois si bonnes ne sont pas si parfaites à mes yeux, dit le Seigneur. Alors aujourd'hui, je t'appelle à sortir de ta torpeur, de ta somnolence, de ta suffisance spirituelle, parce que nous nous croyons parfois tellement suffisants. Parce que nous faisons telle ou telle chose pour Dieu, alors que ces choses-là n'ont aucune valeur pour notre Dieu. Rappelle-toi ce que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois-lui fidèle et change de vie. Si tu n'es pas vigilant, je viendrai te surprendre comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure ce sera. Waouh ! Fais retour en arrière, mon frère, ma sœur. Souviens-toi quand tu es venu à moi. Souviens-toi de ta conversion, de ton zèle, de ta passion pour moi. Ah, il y a des gens, quand ils se convertissent, ils vont après convertir le monde entier. À tel point, parfois, qu'ils cassent les pieds et les oreilles des gens. Ils sont lourds, des fois. Et ils veulent que tout le monde se convertisse. Souviens-toi d'où je t'ai retiré. Souvenons-nous que nous étions des pécheurs, que nous étions loin de Dieu, sans aucune espérance. Et ensuite, eh bien, la routine s'installe, comme dans un vieux couple. Hein. On s'installe, on est habitué à vivre ensemble. Hein? Je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Alléluia, tout va bien pour moi. Et nous avons baissé la garde. Nous nous sommes laissés envahir par tout ce qui peut mettre une entrave à notre bonne relation avec notre Dieu. Et de là en découle notre fidélité à notre époux, Jésus. Notre relation avec notre époux, Jésus, laisse à désirer. D'autres choses passent avant lui. Et aujourd'hui, frères et sœurs, sa parole nous rappelle à l'ordre. Il dit « Sois fidèle, change de vie, je t'aime. C'est pour cela que je t'avertis, je ne veux pas te perdre, je t'aime trop, tu es trop précieux pour moi. » Voilà ce que ça veut dire, ce texte. Voilà, nous sommes précieux pour Dieu. Il nous aime. Est-ce que nous l'avons-nous oublié? Arrêtons-nous un instant et considérons le chemin que nous empruntons. Ce n'est pas par hasard que ce texte revient, je ne le crois pas. Ce n'est pas par hasard que ce texte, comme je l'ai déjà dit, a été gravé, mais à vie pour moi. C'est cette prédication que j'ai entendue dans le groupe de jeunes. Comme je l'ai déjà dit, je suis le seul à m'en rappeler de cette réunion. Pourquoi ? Parce que c'était pour moi, ce jour-là. Parfois, il y a une prédication qui est rien que pour une seule personne. Et ce jour-là, ce texte qui était dans cette réunion de jeunes m'a gravé, et je l'ai remémoré des dizaines et des dizaines de fois. Considérons le chemin que nous empruntons. Sommes-nous sur un chemin chaotique ? Il est temps de changer de voie. Nous voyons dans quel état ce monde se trouve, dans quel état l'Église se trouve. C'est urgent. C'est urgent. Le Seigneur nous rappelle que ce que nous savons déjà, il viendra, il reviendra. Le jour que nous ne l'attendrons pas. Et je pense que nous, chrétiens, nous vivons comme si Jésus ne reviendra jamais. Il y a tellement longtemps qu'on nous ressasse cela, qu'on nous casse les oreilles, Jésus revient. Mais pour Jésus, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors, frères et sœurs, avant qu'il ne soit trop tard, avant que nous ne pouvons plus nous préparer, Jésus nous dit ce matin, attention à toi mon enfant, attention à toi Église de Bligny. Je veux que tu changes de voie. Je veux que tu revives une vie spirituelle pleine, riche, abondante. Nous pouvons aussi nous retrouver dans une autre catégorie de chrétiens qui n'est pas la meilleure. Et il nous est demandé aujourd'hui d'y remédier tant que cette grâce est encore offerte. Nous sommes toujours dans le temps de la grâce, ne l'oublions pas. Et nous lisons dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 14. C'est une autre lettre, écrite à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux, misérable, tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir, et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi. Après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons, comme j'ai dit, des oreilles, et Dieu insiste. Si tu as des oreilles, écoute. Écoute la voix de Dieu. Nous connaissons bien ce texte. Il ne nous est pas inconnu. Et pourtant, nous vivons parfois comme si ce texte n'existait pas dans notre Bible. Nous pouvons devenir insensibles à ces paroles. Je ne dis pas que nous le sommes. Je ne fais pas ici le procès. Je ne fais pas ici le procès aucun de nous. Mais je dis, je nous avertis, je me mets dedans. Je m'y inclus, car chaque fois, comme je le dis, chaque fois que je prêche, chaque fois que nous prêchons d'abord à nous-mêmes. Nous ne voulons pas être des donneurs de leçons, parce que je ne suis pas meilleur que vous, je ne suis peut-être pas pire. Une fois de plus, Dieu nous dit qu'il connaît nos œuvres. Il connaît nos activités, il connaît nos actions. Rien ne secret pour lui concernant notre personne et notre spiritualité. Ni froid, ni bouillant, mais tiède. Moi, j'aime pas le café tiède. J'aime pas manger tiède, j'aime bien manger chaud. Et quand je dis chaud avec ma femme, c'est très chaud. Hein, chaud. C'est très chaud. Mais en fait, voilà. On mange chaud. Il y en a qui, voilà, il y en a qui mangent tiède. Non. Dieu ne veut pas des chrétiens tièdes. Certains diront, et ça, j'aime pas cette expression-là parce qu'elle est péjorative, les chrétiens du dimanche. Ça existe, mais je ne veux pas employer ce terme. Je voudrais. Il ne m'est même pas permis de vous traiter de chrétiens du dimanche et de nous traiter de chrétiens du dimanche. Mais ce matin, examinons-nous. Chacun, faisons un examen de conscience si nous sommes vraiment ce tiédounet. Au lieu d'être ce bouillant ou ce froid. Nous sommes bouillants pour notre Dieu, nous convertissant, comme je l'ai dit, mais puis viennent les soucis, les aléas de la vie, les difficultés, les épreuves, les soucis de tout ordre qui nous font perdre du surplace. Alors que ce n'est pas le but, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une vie de marche. Un chrétien, en théorie, doit être en marche. Et quand nous roulons en voiture, nous empruntons pas toujours, surtout en Belgique, des routes comme des billards. Mais nous empruntons des chemins de rembambrement qui ne sont pas toujours faciles à rouler, des chemins boueux. Et ça, la vie chrétienne, c'est ça. Nous empruntons toutes sortes de chemins parce que c'est la vie, parce que Dieu ne nous a jamais promis que nous allons vivre une vie de facilité. C'est une vie de combat. Et celui qui dit que avec Dieu ça va, et que je n'aime pas cette expression-là, avec Dieu ça va toujours, c'est pas vrai. Avec Dieu, des fois, c'est difficile, parce que il y a des choses qui se mettent sur notre chemin et qui nous empêchent parfois de nous développer. Et c'est là que Dieu veut nous conduire pour que nous marchions en avant, pour que nous résistions aux tentations. Jésus n'a jamais eu un chemin facile pendant son ministère. Pas du tout. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Et nous, nous devons le suivre. Donc, nous avons les mêmes chemins de traverse, le même chemin difficile à accomplir. Et alors, à ce moment-là, bien, nous nous refroidissons et nous devenons tièdes. C'est pas que nous devenons incroyants, mais notre zèle se refroidit. Notre relation avec Dieu devient un peu distante. Nous prions de moins en moins. Nous ne méditons plus régulièrement sa parole. La communion fraternelle devient parfois pesante. Et ainsi, nous devenons tièdes. « Oh, aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. J'ai mal au dos, je n'y vais pas. » Mais oui. Ben oui, parfois, on a difficile, c'est vrai. Si vous avez un bagot, on ne va pas vous venir avec une civière. Je donne un exemple. C'est pas que vous devez être là présent tous les dimanches, c'est pas ça, mais... Quelle est notre zèle? Quelle est notre volonté pour cette communion fraternelle? Et Dieu, frères et sœurs, ne supporte pas cette situation ambiguë, ne supporte pas notre tiédeur à son égard. À l'image, vraiment, comme je l'ai dit, d'un vieux couple blasé, ne partageant presque plus rien ensemble. Passe-moi le sel, passe-moi le poivre, t'as fait des courses, voilà. Ça se résume à ça, parfois, dans un vieux couple blasé. Et nous ne devons pas être comme ça au niveau spirituel. Ou tu es bouillant pour ton Dieu, ou tu es froid, et ainsi ta position est claire. Mais tiède, Dieu ne supporte pas cela. Cela veut dire que tu as juste une religion, une étiquette, mais tu n'as plus de relation avec ton Dieu. Avoir une religion et avoir une relation avec Dieu, c'est tout à fait différent, hein. Religion, c'est une étiquette. Moi, j'ai une Renault, moi, j'ai une Forte. Moi, je suis protestant, toi, t'es catholique. C'est ça, pratiquement. Assis entre deux chaises, tu adhères à un mouvement religieux et non plus à une filiation avec ton Dieu, mon frère, ma sœur. Dieu nous appelle à faire un choix. Nous engageons pour l'éternité, nous ne l'oublions pas. Nous pouvons ainsi nous targuer d'appartenir à la mouvance protestante évangélique, mais ce n'est qu'un titre qui n'a aucune valeur pour Dieu. Verset 16, mais tu es ni bouillant ni froid, tu es tiède. de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Waouh ! Et c'est violent, hein, ça, comme ce que Dieu nous dit. Si tu es tiède, je te vomis. Alors, pensons un peu ce que c'est du vomi. Il n'y a pas besoin de faire de détails, hein, mais voilà. Ce que Dieu pense de nous si nous sommes tièdes. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dieu. Hein. Tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux, misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. Ainsi, nous nous mettons en danger, frères et sœurs. Dieu ne pouvant accepter notre situation, il nous rejettera. Quel drame! Quel drame d'avoir couru en vain pendant des années, 30, 40, 50 ans, et puis être vomi. Et ne pas terminer en vainqueur. Je cours, dirait Paul, afin de remporter le prix. Je cours. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à courir, et j'en sais quelque chose. Vu mon grand âge, je ne sais plus courir comme avant. J'étais déjà pas un grand sportif, mais alors là, maintenant, si je devrais courir après le bus, heureusement que j'ai une voiture. Hein. Mais voilà, je cours. Mais spirituellement, on ne doit pas être des handicapés. Hein. On doit courir. On doit toujours poursuivre ce but recherché qui est là devant nous. Nous nous berçons parfois d'illusions en nous trompant nous-mêmes sur notre situation spirituelle et nous ne réalisons pas notre situation ni notre état actuel. On se croit invincible. Je suis chrétien évangélique, je suis dans la meilleure religion, la plus proche de la parole de Dieu. Je suis bien assuré de tout le bien-être. Ce n'est pas une garantie hein, de s'appeler protestant évangélique, hein, ni de faire partie de l'église de Blogny, qui est une des meilleures de la région. J'en suis convaincu. Nous sommes aveuglés, frères et sœurs. Nous ne voyons pas notre état de pauvreté spirituelle. Et c'est ça qui est triste. Parce que nous avons perdu notre contact, notre relation intime avec Dieu. Nous sommes malheureux, mais nous ne le reconnaissons même pas. Nous vivons une vie chrétienne misérable, fade, sans goût. Notre pauvreté fait vraiment pitié à voir. Nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. Où est passée notre ardeur, notre vitalité ? Elles sont bien loin maintenant. Nous sommes nus. Où est le manteau de justice qui doit nous recouvrir ? Où est le manteau de paix, de joie qui doit recouvrir tout chrétien ? Où est-il ? Et ça nous fait perdre notre chaleur spirituelle. Nous ne réalisons plus que nous sommes devenus aveugles. Nous ne voyons plus où nous posons nos pieds. Nous voilà ainsi happés par tout vent de doctrine, la saine doctrine n'étant plus en nous. Faisons attention à ce que nous lisons, faisons attention à ce que nous regardons, à ce que nous entendons. Maintenant, nous avons la possibilité d'écouter toutes sortes de prédications sur Internet, mais faisons attention à ce que nous écoutons ou entendons. Que ce soit la saine doctrine, que ces doctrines-là ne nous éloignent pas de notre Dieu, qu'elles ne nous appauvrissent pas spirituellement. Et Dieu, ce matin, nous donne un conseil. Si nous nous trouvons dans cet état, achète de l'or, qui nous dit, achète de l'or. Mais où trouver de l'or ? Pour nous chrétiens. Où trouver de l'or ? Non pas chez le bijoutier Galerie Cora, sûrement pas chez le bijoutier, mais dans la parole de Dieu. Le retour à la parole de Dieu est indispensable, frères et sœurs, pour le chrétien tiède. C'est là qu'il faut acheter de l'or. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort, le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux, par celui qui les respecte. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Dans la parole de Dieu, tous les ingrédients, frères et sœurs, sont réunis afin de vivre une vie chrétienne riche, une vie spirituelle bouillante pour Dieu. Et David l'avait bien compris, déjà à son époque. alors qu'il n'avait pas toute la parole comme nous l'avons maintenant. Sa parole est parfaite afin d'avancer dans les voies de Dieu. Voilà où chercher l'or, afin de nous enrichir, d'y trouver la nourriture nous donnant la force, afin de pouvoir avancer dans ce chemin difficile que nous parcourons chaque jour, afin de retrouver cette chaleur spirituelle pour nous chrétiens. Sa parole, on doit revenir à sa parole, est une nourriture et une chaleur. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime, fais donc preuve de zèle et change de comportement. Voilà le conseil de Dieu. Voilà le conseil de Dieu pour nous ce matin. Si Dieu nous parle ainsi, frères et sœurs, c'est parce qu'il nous aime. Ce n'est pas pour le plaisir de raconter une belle histoire. Il tient à nous, ne prenons pas Dieu en griffe. S'il nous parle ainsi, reconnaissons notre état et revenons à lui. Ne restons pas au bord du chemin. Retrouvons notre zèle d'autrefois. Changeons de vie, d'attitude envers notre Sauveur. Voilà le conseil que Dieu nous apporte ce matin. Voilà le conseil qu'il nous apporte. Nous avons tout à gagner pour cela, si nous changeons de vie. Nous avons tout à gagner pour maintenant, sur cette vie, sur la terre, parce que nous vivrons une vie chrétienne épanouie, riche et bouillante, et pour l'éternité. Si nous réprimandons nos enfants et nous trouvons cela normal, c'est pour leur bien que nous le faisons. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants se retrouvent en prison, nous ne voulons pas que nos enfants se retrouvent dans une situation difficile. Et Dieu, qui est notre Père et qui nous aime encore plus que nous aimons nos enfants, veut que notre bien, c'est pour cela qu'il nous réprimande ce matin, qu'il nous met en garde. Alors acceptons que Dieu fasse la même chose pour nous que nous faisons pour nos enfants. Frères et sœurs, il se tient à la porte de notre cœur. Ce matin, laissons-le entrer. Nous avons déjà laissé entrer le Seigneur. Et comme la poignée est de notre côté, nous avons parfois ouvert la porte pour qu'il sorte. Seigneur, sors un peu parce que pour l'instant, c'est trop long. Nous l'avons laissé sortir des fois de notre vie. Alors laissons-le entrer. Donnons-lui toute la place pour qu'il puisse faire le ménage dans notre vie. Fermons nos cœurs à tout ce qui est futilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des loisirs. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous amuser. Vous savez, on nous a interdit tellement de choses. Il y a des années, dans nos églises, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas aller là. Et vous savez quoi? Les inconvertis, parfois, ils me parlent. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Je pense qu'on est des gens malheureux parce qu'on nous a donné des impositions qui n'avaient rien de biblique, frères et sœurs. On nous a donné des impositions qui ont fait de nous des chrétiens lourdeaux parce que c'était un poids de vivre une vie chrétienne, parce qu'on nous imposait tellement de choses, alors que la parole de Dieu nous donne la liberté. Et nous n'avons pas toujours vécu la liberté, nous avons vécu des impositions lourdes à porter. C'est pour cela aussi que nous sommes refroidis, parce que ce n'était pas vraiment le vrai enseignement biblique que nous a donné. Nous nous sommes éloignés de l'amour de Dieu et de sa chaleur avec tout ça. Alors je termine sur une note positive. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône. Nous sommes plus que vainqueurs si nous avançons avec lui. Si nous sommes bouillants, nous siégerons dans les cieux avec notre Dieu. Telle sera notre récompense, la récompense du chrétien. Et je veux terminer par cette question. Où nous situons-nous aujourd'hui sur l'échiquier de Dieu? Comment est notre situation? Sommes-nous bouillants, froids, tièdes? Nous savons tout ce qui nous attend. Suivons la condition où nous nous trouvons. Alors ce matin, je vous laisse cette question-là. Comment allons-nous? Comment voulons-nous vivre en 2023? Comment avons-nous vécu en 2022? Si notre bilan n'est pas positif, eh bien, donnons-nous un objectif d'être meilleur, d'être plus ardent, d'être bouillant pour le Seigneur cette année, de revenir à sa parole, de revenir à cette méditation, de revenir à cet esprit de prière, afin de ne pas être vomi de sa bouche. Quel drame ce serait pour nous de perdre tout parce que nous n'avons pas été bouillants pour le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, je nous place tous devant toi. Tu connais l'état spirituel de chacun d'entre nous. Ce n'est pas à moi de juger quoi que ce soit. Tu nous connais mieux que personne. Ce matin, nous te demandons de réchauffer le cœur de celui qui est tiède, de réchauffer le cœur de celui qui est froid, de redonner une nouvelle ardeur et de préserver celui qui est bouillant afin que les aléas de la vie ne le découragent pas. Seigneur, bénis ton Église. Tu l'aimes, tu la protèges. Tu as donné ta vie pour ton Église. Et nous voulons être reconnaissants pour cela. Seigneur, ranimons-nous la flamme qui était dans notre cœur. Amen.